quelle que soit en réalité la durée de l'analyse. Cela tient essentiellement au fait que le propre de la psychanalyse, c'est d'aller à contre-courant de toutes les évidences. Au lieu de répondre aux critères d'efficacité immédiate, de performance, d'évaluation, la psychanalyse ne répond à aucune prescription et surtout elle ne prescrit pas la durée. Pour que, à la place de ce qui depuis toujours a fait sens pour l'analysant et qu'il cherche à conforter, se produise un effet de sens qui s'oppose à toutes les évidences, il faut du temps et c'est pour ça que les psychanalyses durent longtemps. Si on regarde maintenant la durée des analyses du temps de Freud, du temps de Lacan et les analyses aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle n'est pas la même et qu'avec le temps, la durée s'allonge. Plus on avance dans l'enseignement de Lacan sur les concepts de jouissance et de réel, plus on se rend compte que dans l'analyse, il y a quelque chose de particulièrement difficile à saisir qui ne s'attrape pas seulement par le déchiffrage en termes d'articulation signifiante. Et qu'il faut pousser assez loin l'analyse pour arriver à cerner le noyau de jouissance qui constitue le symptôme. Il est certain que la durée est variable selon chaque analysant. Nul ne peut savoir à l'avance quelle sera la durée de son analyse. Dans tous les cas, pour avoir un effet durable, l'analyse a besoin d'un temps long. Cependant, l'analysant arrête son analyse au moment où il croit bon pour lui d'arrêter. Ce qui nous intéresse ici, dans ce séminaire, c'est la durée des analyses de ceux qui, dans les temps présents, veulent devenir analystes. Ceux-ci doivent pousser leur analyse assez loin pour que soit levé le voile du fantasme et que se produise un effet de changement manifeste et durable. Partant de ce principe, je propose d'examiner deux visées qui expliquent que les analyses durent longtemps. Et ces deux visées, bien sûr, sont corrélées. La première visée est celle dont parle Lacan en 1973 dans sa note aux Italiens. Il s'adresse à des analystes italiens, il leur parle de la formation des analystes et de la fin de l'analyse. Et il leur dit que l'analyste, c'est celui qui est parvenu à cerner la cause de son horreur de savoir. Cette horreur de savoir tient à un impossible. Pour tout sujet, il y a un impossible qui lui fait horreur et que l'analyse aide à rendre plus acceptable. C'est l'impossible du rapport entre les sexes. Au-delà de cet impossible auquel tout le monde est confronté, il y a l'horreur propre à chacun liée à son histoire singulière. Cerner la cause de son horreur de savoir suppose un savoir sur cet impossible, l'impossible du rapport entre les sexes et l'impossible de son symptôme. La deuxième visée est celle de faire émerger un dire qui fasse coupure dans la série des dits de l'analysant. Dans les derniers séminaires de Lacan, ce dire que Lacan situe du côté du réel dans la mesure où il existe à la chaîne signifiante, fait coupure et produit un effet de nuage entre les trois consistances réelles, symboliques et imaginaires. Nuage différent de celui de l'entrée en analyse. Cette idée, qui chez Lacan est très importante à la fin de son enseignement, est difficile à saisir et je vais essayer de le cerner. La nécessité des derniers développements de Lacan vient du fait que ses observations et celles de Freud ont montré que dans la cure, il ne suffit pas de déchiffrer le symptôme pour s'en débarrasser. S'il est si difficile de se débarrasser du symptôme, c'est parce qu'il y a une dimension de jouissance associée au symptôme qui ne peut pas être atteinte par le seul déchiffrage des signifiants. Au-delà du déchiffrage, ce que l'analyse met à jour, c'est le rapport du sujet à la jouissance. Avec le concept de la langue, Lacan a introduit la dimension de jouissance associée au langage. Dans la langue, il y a de la jouissance, jouissance de la langue, mais aussi jouissance en deux mots, un sens joui, singulier, particulier à chacun, différent du sens commun. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que si ce sens joui peut être mis à jour dans l'analyse, c'est grâce à l'effet d'un dire. Un dire qui permet que se noue autrement le symbolique et l'imaginaire, c'est-à-dire un nouage qui puisse faire accord entre le langage et le corps par opposition à la discordance due à l'effet du langage sur le corps dont se plaint sans le savoir l'analysant à l'entrée en analyse. Depuis le début de ce séminaire, on a beaucoup parlé du transfert, du fantasme, de la jouissance qui constitue le symptôme et à laquelle le sujet ne veut pas renoncer, pour expliquer que les analyses durent longtemps. Avec les dernières avancées de Lacan, notre attention est attirée sur le fait que pour chaque sujet, très tôt, parfois avant même sa naissance, quelque chose se constitue sur lequel le symptôme prendra appui. Cette marque qu'il porte et qu'il ignore est inscrite dans la façon dont il est nommé par son entourage, dans la langue dans laquelle il baigne, dans l'histoire dont il hérite et la façon dont sa famille l'intègre dans cette histoire. Toute la difficulté de l'analyse est que si l'analysant peut relater et repérer certains faits, il est dans l'incapacité de dire et surtout de savoir comment il en a été affecté. Ce dont il se plaint et à quoi il donne un sens vient masquer un noyau de jouissance qui s'est constitué et cristallisé bien avant peut-être qu'il ne maîtrise la structure du langage. D'où la difficulté à atteindre cette matière, la matière sonore, dans laquelle s'est constitué son symptôme. Très tôt, l'enfant est affecté dans son corps par la langue qui est parlée, qu'il entend quand il est encore dans son berceau. Avant qu'il ne sache lire et écrire, quand il commence à parler, ses affects sont directement exprimés dans la langue. Les petits-enfants prononcent des mots qui, parfois, ont une ressemblance très éloignée avec les mots du vocabulaire courant, mais qui, pour eux, veulent dire quelque chose de très précis. Si un adulte vient corriger la prononciation et propose à l'enfant un usage plus correct du vocabulaire, tout ce que ce mot représentait pour l'enfant se vide de son contenu, perd la signification singulière que ce mot avait pour lui. Dans les littératures, quelques auteurs ont très bien décrit ce phénomène et on a de très beaux témoignages chez Michel Léris ou André Makin, par exemple. Si dans le langage, l'enfant exprime tout son plaisir et sa satisfaction, les effets d'affect que la langue produit peuvent aussi être dérangeants. Et l'enfant les éprouve dans son corps, ce qui se traduit par l'angoisse, l'inhibition, la tristesse. L'effet de la langue sur le corps, Lacan le compare à celui de la jouissance phallique. Chez l'enfant, comme Freud l'a bien décrit pour le petit Hans, les premières manifestations de son organe sont vécues comme étrangères. La jouissance des éléments de la langue est comme la jouissance phallique, une jouissance hors corps. Lacan la définit comme parasitaire. Elle se surajoute au corps. La langue a des effets d'affect qui affectent le corps. Ainsi, dans la langue s'expriment tous les affects de plaisir du petit enfant. Mais c'est aussi dans la langue qui affecte le corps, qui dérange le corps, que se constituent les symptômes. Pour rendre plus supportable la rencontre avec un impossible qui lui fait horreur, le sujet névrosé a recours à l'artifice du fantasme. Même si dans le cours de son analyse, l'analysant se doute qu'il y ait pour quelque chose dans ce qui lui arrive, il continue à se laisser guider par ce qu'il ignore être son fantasme. Sans le savoir, il agit en obéissant à ce fantasme, en se laissant manipuler par lui, en justifiant même ses actes par la nécessité de répondre à une exigence éthiquement incontournable. Pendant parfois de longues années, l'analysant ne veut rien lâcher du bricolage qu'il a mis en place pour rendre plus supportable cette rencontre avec un réel de la langue, qui très tôt a affecté son corps. Avant de pouvoir identifier son fantasme comme fantasme, il aura fallu à l'analysant de longues années pendant lesquelles il aura ressassé les mêmes choses, raconté les mêmes histoires et les mêmes souvenirs. En d'autres termes, il sera resté dans un registre du sens, celui de l'articulation signifiante AS1 articulée à AS2. Pour qu'un changement se produise, pour que l'analysant cesse de croire à son fantasme qu'il prend pour sa propre vérité, il faut qu'un dire fasse rupture dans la série des dits. Alors, qu'est-ce qui peut se produire dans une analyse pour que l'analysant passe des dits au dire? Car au-delà des dits, il y a un dire qui résiste à se faire entendre. Et je vous rappelle la célèbre phrase de l'étourdi, qu'on dise, reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Il y a une difficulté à définir ce qu'est le dire. Si Lacan emploie les deux termes de dire et d'énonciation, c'est qu'ils ne sont pas équivalents. Alors je voudrais essayer de saisir la nuance. L'énonciation témoigne de la division du sujet par deux discours, un discours conscient et un discours inconscient. Mais ce discours inconscient est articulé dans le langage lui-même, par la dénégation. Il y a le fameux « j'ai peur qu'il ne vienne ». C'est une façon d'exprimer quelque chose de positif par un énoncé négatif. Et ça, c'est une énonciation. En ce sens, l'énonciation peut être facilement déchiffrable par l'articulation des signifiants. Avec l'énonciation, quelque chose échappe au sujet, mais c'est quelque chose qui reste dans une logique de langage et qui peut être attrapé par le langage. La notion de dire exprime quelque chose qui n'est pas articulé dans le langage, qui est extérieur, qui existe à la chaîne signifiante. Le dire se déduit de la série des dires. Il arrive que le dire fasse rupture, fasse irruption, comme discontinuité dans la logique du récit de l'analysant. Il lui revient à la figure comme une évidence et fait taire toutes les autres allégations. Le dire est l'expression d'un savoir inconscient qui n'est pas de l'ordre du sens et fait apparaître la jouissance au-delà des dits de l'analysant. Encore faut-il que l'analysant soit prêt à l'entendre. Ce n'est que dans l'après-coup que l'on peut constater qu'il y a eu un dire. C'est l'effet produit sur le symptôme qui permet de reconnaître qu'il y a eu un dire. C'est de l'ordre d'un effet de sens qui fait entendre autrement à l'analysant tout ce qui avait été dit jusque-là. La conséquence est aussi que l'analysant reconnaît comme fantasme ce qui avait conditionné jusque-là tous ses comportements et ses actes et auxquels il donnait du sens. Je voudrais rappeler ce que disait Nadine Cordova lors d'une de ses séances de ce séminaire. En effet, dit-elle, ce qui inaugure la fin de l'analyse, c'est que quelque chose arrête le sens, qui est incalculable, qui a fait surprise pour moi. Ça troue le silence, quelque chose s'expulse, laissant l'analysant sans voix. Fin de citation. Par principe, le dire ne peut pas se dire. Il se déduit des dits et peut se faire entendre de façon singulière. C'est ce que l'interprétation fait entendre à l'analysant. Pourtant, tout fait obstacle à ce que l'analysant puisse entendre se dire. En revanche, l'analysant croit à son fantasme comme à une vérité absolue. On pourrait dire que dans l'analyse, le discours de l'analysant fait consister des dits. Le travail de l'analyse sera de faire émerger un dire qui existe au dit. C'est ce dire qui fera entendre à l'analysant autre chose que ce qu'il avait pris jusque-là comme sa vérité. Ce dire fera entendre quelque chose d'inédit. Je cite à nouveau Nadine Cordova. Il faut souligner que l'autre surprise de la cure, c'est que le traitement par la parole a pour effet d'entamer la jouissance et de réduire les effets délétères du frisson, mais pas du tout où s'y attend l'analysant. Fin de citation. Compte tenu de ces constatations, le déroulement de l'analyse pourrait se décrire comme un trajet qui marque le passage de la vérité du fantasme au réel du dire. La vérité à laquelle l'analysant a toujours cru, mais qui est un mirage, au réel qui fait coupure et déchire le voile de ce mirage pour faire apparaître la jouissance du symptôme. Le réel, Lacan l'a défini comme ce qui s'oppose au sens. Ce réel apparaît dans la cure sous la forme d'un signifiant hors chaîne signifiante, donc hors sens, qui fait rupture dans la série des dits de l'analysant. Ce signifiant n'est pas toujours repérable en tant que tel, mais il peut se déduire dans l'après-coup de l'analyse, dans la mesure où quelque chose peut se dire qui s'oppose au sens que l'analysant a depuis toujours cherché à conforter par son fantasme. En utilisant les termes de résonance, consonance, accord dans le séminaire Le Symptôme, il me semble que Lacan se sert de la métaphore musicale pour représenter le nœud. Il montre qu'en nouant l'imaginaire et le symbolique, le réel fait accord, en faisant résonner le sens autrement pour l'analysant. Il s'agit de faire consonner le langage d'une façon qui va plus loin que ce qui est effectivement dit. Ce qui permet d'illustrer comment les effets de la langue sur le corps, les effets dérangeants, peuvent être défaits grâce à ce que l'interprétation fait résonner pour l'analysant et auquel le corps peut être sensible. Le réel est ce qui fait accord entre le corps et le langage, dit Lacan dans le séminaire Le Symptôme, ce qui veut dire aussi que le réel fait accord entre l'imaginaire et le symptôme grâce à l'interprétation, une interprétation qui tient compte du réel. Faire entendre un sens différent de celui que l'analysant donnait à son fantasme, c'est ce que permet l'interprétation. L'interprétation fait entendre à l'analysant un sens différent du sens joui de la langue. Ce que j'ai voulu mettre en évidence ici, c'est que pour le sujet névrosé, il n'y a pas d'harmonie entre le langage et le corps. Le savoir qui est dans la langue dérange le corps, c'est dans les dépôts de la langue, la jouissance dont elle est faite, que réside ce qui parasite le corps et produit des effets d'inhibition et d'angoisse. Le réel tel qu'il l'introduit à partir du nœud, Lacan le présente comme son invention. Son invention pour faire tenir deux choses aussi étrangères l'une à l'autre que le symbolique et l'imaginaire. Si, comme le soutient Lacan, c'est uniquement par l'équivoque que l'interprétation opère, alors c'est dans les résonances et consonances de la langue que peut se produire un dire qui existe ou dit. En n'étant pas de l'ordre du sens, le dire de l'analyste fait résonner autrement les dits de l'analysant. Encore faut-il que l'analysant y soit sensible, qu'il puisse l'entendre pour sortir de ses dits et que se produise l'effet d'un dire. Ce dire de l'analysant vient à la suite d'un effet de sens produit grâce à l'interprétation de l'analyste, effet de sens réel qui a pour conséquence un nouveau nuage. Pour toutes ces raisons, la durée de l'analyse n'est pas prédictible et l'opération qui permet que se produise une coupure qui aura un effet de changement durable est complexe et nécessite une longue durée. C'est-à-dire que pour qu'un dire fasse coupure à la série des dits et que l'analysant puisse l'entendre, il aura fallu que l'analysant cesse de faire consister son fantasme pour pouvoir cerner la cause de son horreur de savoir. Je n'ai pas voulu aller plus loin à propos de ce que dit Lacan dans les derniers séminaires sur la coupure produite à partir du nœud. Le dire fait coupure dans la série des dits de l'analysant et il permet un nouveau nouage qui aura un effet de transformation pour le sujet. On peut faire le rapprochement de cette coupure du dire en tant qu'il fait nœud avec la coupure de l'amande de Mobius dont parle Lacan dans l'étourdi, dans la mesure où ces deux coupures ont un effet de transformation. Mais la coupure à partir du nœud est beaucoup plus difficilement représentable topologiquement. Michel Bousséroux nous en a parlé il y a quelques années dans un séminaire de l'école en disant que Lacan a trouvé la solution de la représentation borroméenne du nœud qui fait coupure par le nœud borroméen généralisé. Mais ce sera pour moi l'objet d'un autre travail.
Merci Patricia. Dans un tout autre style, mais pas sans résonance, ni peut-être nuage, le texte maintenant de Didier Gray.
Mon texte, dépannage express. Festina lente, c'est le sous-titre que je vous propose pour cette intervention. En effet, cet adage latin signifiant, comme vous le savez, hâte-toi lentement, me semble bien introduire la question que nous nous sommes posée tout au long de ce séminaire sur la durée des analyses. La durée, comme étant impossible à définir, est nécessaire à la fois à prendre en compte. Il n'est pas très facile d'être dans les derniers à intervenir, tant de chemins passionnants ont déjà été frayés tout au long de cette année. Je n'en reprends que quelques-uns. La durée et la contingence, le temps d'épuiser le sens, d'accepter la séparation d'avec l'autre, de se faire au désêtre, la rencontre du réel dans sa crudité, ou bien encore le temps pour désenchanter le transfert. Ce soir, je pourrais rajouter de la vérité du fantasme au réel du dire. Ainsi, il semble bien que la notion de la durée d'une analyse est une question essentielle dans la pratique analytique. Elle entre dans la problématique qui tente de savoir ce qui opère dans une analyse. Pourquoi nécessite-t-elle une certaine durée? Et pourquoi cette durée ne peut pas être déterminée à l'avance? On sait l'effet catastrophique de la fixation d'une date limite par Freud dans la cure de l'homme au loup. Parfois, dès les premiers entretiens, un nouvel analysant nous questionne. Et combien de temps ça va durer cette analyse? Peut-on seulement lui répondre qu'il faut le temps ? Car cette question s'adresse d'emblée à l'analyste en tant que sujet supposé savoir, et c'est une question qui risque de le figer dans cette position de savoir à l'avance quelque chose d'essentiel sur la vérité du sujet. Ce serait donc adopter d'emblée une position fausse que d'y répondre. Il y a dans ce faux le temps, que l'on peut écrire avec un X, une référence bien sûr à Radiophonie. Dans cette intervention de 1970, Lacan joue, comme il le dit, sur le cristal de la langue quand il énonce ce qu'il faut de temps pour faire trace de ce qui a défailli à s'avérer d'abord. Car en effet, il faut du temps pour se faire à cet impossible qui consiste à accepter qu'on ne pourra jamais dire ce que l'on est, se faire à être ce que l'on ne sait pas et que l'on ne saura jamais de soi. Alors, pouvons-nous continuer à nous demander combien de temps dure une analyse ? Oui, car tel est, pourrions-nous dire, depuis que la psychanalyse existe, l'une des plus insistantes questions que se répètent ses partisans ou ses rétracteurs. Contrariant la loi du « obtenir plus de résultats en moindre temps et à moindre coût », le temps d'une analyse se révèle au fil de son histoire chaque fois plus long. Surtout pour l'analysant en réalité. En effet, je suis toujours surpris quand un analysant me dit « Quand je suis venu vous voir pour la première fois il y a plus de 10 ans. » C'est un peu vieux, mais c'est pas que ça. « Car j'ai du mal à avoir la même notion de temps que lui. Ça me paraît toujours moins long que ce qu'il dit. Et pourtant, moi aussi j'ai compté mes années passées sur le bureau. » Faisant des comparaisons même avec d'autres analysants, collègues ou amis, mais maintenant, j'ai même oublié combien de temps ça a réellement duré. J'avais également oublié, avant d'écrire ce texte, que ce fut le 6e analyste rencontré que je nomme encore aujourd'hui mon analyste. Avant, certaines rencontres avaient duré le temps d'une seule séance, quelques mois, ou même 2 ans, interrompu par le décès de l'analyste. Mais si je ne me souviens plus de la durée, je me rappelle parfaitement de tels moments marquants dans ma cure ou de telles interventions de mon analyste, comme celle de notre première rencontre, résumée à une phrase, dite en partant, sous une forme interrogative et portant sur le concret de la vie. Phrase qui fera signe tout au long de mon analyse, et qui tournait autour de l'expression « prendre ses précautions ». Alors, actuellement, ça dure plus longtemps qu'avant. En effet, nous sommes loin d'une analyse restreinte à une seule rencontre, telle celle de Katharina et Freud au sommet de la montagne. 4, 8, 12, 15 ans ou plus, il ne nous est pas possible d'établir un temps moyen. Une analyse, c'est bon, et sur ce point, tout le monde est à peu près d'accord. N'est-ce pas d'ailleurs encore plus long depuis que Lacan a mis la passe en fonction dans son école ? Dans son texte tardif, l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, qui me servira principalement de fil conducteur pour cette intervention, Freud note au chapitre 5 qu'il a pris son point de départ de ce qu'il appelle les conditions de temps dans l'analyse. Ces conditions temporelles, il les aborde de la façon la plus fruste, à partir de la durée. Le point de départ, c'est une revendication très pragmatique. Comment raccourcir la durée de la crise ? Freud fait référence ici à l'homme moderne, celui qui demande du rendement, un bon rapport coût-profit. Depuis cette époque, le temps, pourrait-on dire, constitue encore plus la corde sur laquelle la vie de chacun va se tendre. Prenons par exemple les nouvelles technologies de l'instantanéité, comme les téléphones portables ou les smartphones, qui représentent une arme à double tranchant. D'un côté, ils semblent libérer l'individu de son assujettissement au temps, de l'autre, ils intensifient l'obligation de réactivité immédiate et de ce fait, contribuent à générer ou entretenir l'urgence. Cela crée même de nouvelles catégories sociologiques, que l'on nomme par exemple les cadres fusibles, qui sont ces cadres supérieurs dans certaines sociétés, dotés par leur direction de téléphones portables, leur permettant d'être joints en tout lieu et toute heure, et qui doivent supporter l'obligation d'une présence en temps réel, en continu, une mise sous tension permanente, d'où leur nom de cadre fusible. Mais rassurez-vous, leur demande d'analyse n'en sera pas plus particulière, malgré ces nouveaux symptômes. Le titre de mon intervention de ce soir en est un témoignage clinique. Un matin, mon téléphone sonne. Je reconnais sur l'écran le nom d'une patiente que je reçois depuis plusieurs mois. Je décroche et j'entends « Allô, dépannage express ?» En effet, dans l'ordre alphabétique de son agenda téléphonique, j'étais juste après la société dépannage express. Une erreur de manipulation, un geste trop rapide de sa part, était-il responsable de cet acte manqué? Non, bien sûr. Car c'est en effet comme cela qu'elle concevait l'analyse, une affaire à terminer rapidement, un dépannage express de plus. Pour elle, le temps devait être rentable. Rapidité et efficacité étaient les deux mots d'ordre qui orientaient sa vie, et cela prendrait beaucoup de temps à en faire changer. Mais revenons à Freud et à son texte « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », où il convoque sur la scène un certain nombre de ses anciens analysants. Il se demande ce qu'il a bien pu produire dans l'analyse de ses sujets. C'est un réel effort de Freud pour évaluer sa pratique. 2 ans avant sa mort, il se retourne pour évaluer ce qu'il a pu obtenir de ses patients. Il s'agit, comme vous le savez, de Rank et de Ferenczi. Marx Rose, dans l'argument de ce séminaire, évoquait d'ailleurs Ferenczi et sa technique active. Je parlerai ce soir d'Otto Rank. Le cas de Rank est particulier. Il était d'une certaine manière sorti de l'analyse. Lacan laissait entendre d'ailleurs, dans son discours à l'école freudienne de Paris en 67, que la passe lui avait manqué, quand il évoque que Rank, comme d'autres premiers disciples de Freud, serait resté au désir de l'être l'analyste, sans pouvoir se confronter à l'appréhension du désir de l'analyste. En effet, concernant Rank, l'expérience analytique a eu pour résultat de le détourner, de ne plus rien vouloir savoir de la psychanalyse. Il sort de la cure et sort peu après de la psychanalyse. On peut imaginer que cela est resté pour Freud une question. Rank était animé d'un puissant désir de savoir, et c'est comme si la psychanalyse avait eu pour effet de lui faire passer ce désir. Si le cas de Rank m'interroge, c'est qu'il pense qu'on peut faire l'économie d'une longue analyse et aller directement à la cause, court-circuiter les effets pour aller à la cause. Or, la thèse que Freud ne cesse de développer dans ce texte, c'est justement que dans la psychanalyse, on ne peut pas faire l'économie du parcours. Il faut payer le prix. Il y a un passage où Freud explique qu'il n'est pas possible de faire de la prévention et d'anticiper sur les conflits futurs du sujet, même en les lui expliquant, pour tenter d'éviter une répétition de ces conflits. Freud répond précisément que le résultat attendu n'a pas lieu. Le patient entend bien le message, mais l'écho fait défaut. On a accru son savoir, mais par ailleurs, on n'a rien changé en lui. Freud formule ici la puissance du savoir comme tel, de son rapport à la connaissance. Le savoir n'est pas immédiatement cause du changement subjectif. Or, au départ de cet article, c'est bien du savoir que Freud espérait le changement. Juste après, dans le même texte, il note même que quand on veut faire de la pédagogie sexuelle aux enfants pour leur éviter d'être névrosés, on leur communique un savoir et qui n'est pas opéré. Et il ajoute, ils ne font rien de ces connaissances nouvelles qui leur ont été offertes. Alors déjà pour Freud, à l'époque, un savoir offert, ça ne sert à rien. C'est ce que Lacan commente à sa façon quand il dit dans le séminaire encore que le savoir vaut juste autant qu'il coûte, beaucoup, en deux mots. Le savoir qui compte, pourrait-on dire alors, c'est celui pour lequel on se saigne. C'est celui-là qui fait enseignement. Écrivez-le avec un A ou avec un T. C'est un des thèmes fondamentaux du texte de Freud qui commence par ceux qui veulent faire des économies et conclut que dans la psychanalyse, on ne peut pas en faire. En voici un exemple. L'analyste dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai rencontré pendant 2 ans m'avait évoqué lors d'une séance le titre d'un livre peu de temps avant ce qui devait être et que je ne savais pas encore, notre dernière séance. Ce titre, il me l'avait donné comme une confidence, ce qui n'était pas dans son habitude, que j'ai pris comme un testament le jour de l'annonce de son décès. Je l'ai bien sûr acheté au plus vite. Il s'agissait du livre de Nelly Kaplan, cinéaste et écrivain, ayant pour titre « Le réservoir d'essence », en 2 mots, et qui venait, 20 ans après sa parution, d'être réédité. Dans sa lecture frénétique et immédiate, j'y cherchais une réponse à mes symptômes de l'époque et n'y trouvais que de simples jeux de mots, écrits, il faut bien le dire, dans un style assez lourd, un mauvais Raymond Devos en son sens. Il m'a fallu de longues années, et surtout la fin de mon analyse, pour que ce souvenir me revienne et pour me dire qu'il voulait peut-être simplement me mettre sur la voie des équivoques possibles de la langue, du sens et du non-sens. Mais encore aujourd'hui, je trouve que c'était précipité et d'une certaine manière inutile de sa part, car à l'époque, je n'en étais encore qu'à raconter ma petite histoire olympienne. On ne peut pas faire l'économie du temps nécessaire pour parvenir à être saisi par le hors-sens, à moins que cela pose une autre question. L'analyste n'oriente-t-il pas différemment la cure de son patient quand il sait sa propre mort annoncée? C'est une question particulière de la prise en compte de la durée de l'analyse via la durée de l'analyste. La question reste ouverte. Reprenons le texte de Freud. Le texte de Freud commentant le cas de Rank, qui a cherché à définir le refoulement dernier. Le refoulement du refoulement, pourrait-on dire. Il pensait que le refoulement originaire était un contenu déterminé, tombé à l'origine sous le refoulement, et que si l'on cherchait directement à ce point, on ferait l'économie des circonvolutions et des tours du travail analytique qui peuvent durer un certain temps. Pour Rank, le refoulement originaire un contenu particulier, comme vous savez, c'est le traumatisme. Mais en fait, le refoulement originaire est sans contenu particulier. Il signifie seulement qu'il y a toujours des refoulements qui apparaissent. Le refoulement originaire veut dire qu'il y aura toujours de la vérité à retrouver à l'infini. Tout le texte de Freud est pour dire que ce refoulement originaire n'a pas de contenu, c'est à proprement parler le principe du sans-fin, comme la vie sans-fin. Le refoulement originaire, selon Rank, c'est le mot de la fin. Mais la thèse de Freud, c'est qu'il n'y a pas de mot de la fin, ce qui n'empêche pas que ce ne soit pas sans conclusion. Comment penser une conclusion sans le mot de la fin? Il me semble que c'est toute la question de la psychanalyse avec Lacan. Le temps analytique, avec ses scansions, marque le mouvement pulsatif propre à l'ouverture, fermeture de l'inconscient. Cet inconscient que Freud disait atemporel. Dans métapsychologie, il mettait ce terme d'ailleurs entre guillemets. Je le cite. L'expérience nous apprit que les processus psychiques inconscients en eux-mêmes sont atemporels. Cela signifie d'abord qu'ils ne sont pas ordonnés temporairement, que le temps ne les modifie en rien, qu'on ne peut les aborder en termes de représentation temporelle. L'inconscient échappe donc au temps, il a une temporalité, ou plutôt un tempo qui lui est propre. C'est le dire de l'interprétation qui a un effet de coupure dans le discours de l'analyseur. Il produit un effet de sens et rend l'interprétation irréversible. Comment concilier l'idée que l'interprétation, par son effet de coupure, est irréversible, et l'effet rétroactif de sens qu'elle provoque, l'effet d'après-coup. L'analyse n'est pas une machine à remonter le temps. L'interprétation actualise une parole qui était déjà là en suspens, on attend d'être reconnu. On parle à tort de régression alors qu'il s'agit de creuser un discours pour y retrouver sa limite, son trou. On vient rencontrer un analyste parce que l'on souffre et que l'on cherche une cause à ses symptômes, mais la causalité du symptôme se trouve dans le discours de l'analysant en tant qu'effet du signifiant dont il pâtit. Elle n'est pas à rechercher dans une chronologie des événements de l'histoire d'un individu. Elle n'apparaît que comme l'effet de l'interprétation, l'effet d'après-coup. C'est la coupure de l'interprétation qui marque un avant et un après, en venant mettre en évidence ce trou central autour duquel tourne le discours de l'analysant, le traumatisme, comme vous savez, le nomme Lacan. On est bien loin du traumatisme de Rank. C'est la coupure de l'interprétation qui donne l'indication d'une direction à partir de quoi l'analysant peut reconstruire son histoire. La répétition n'est pas tant un événement cyclique, une insistance du réel, une insistance de cette cause qui n'a pas trouvé de domination, qui tourne sur elle-même, sans jamais revenir toutefois à la même place. J'ai été surpris en lisant le livre d'Étienne Klein, Les tactiques de Cronos, qu'il se pose en tant que physicien des questions que nous abordons souvent en psychanalyse, comme la question de la répétition. Il remarque que les phénomènes ne se répètent jamais à l'identique, et que s'il existe des cycles, cela ne signifie pas que le temps est cyclique. Revenons à cette question de la durée des analyses, qui est donc idéalement associée à la conception de la fin du traitement. Toute cure doit trouver la fin qui lui permette de mettre en fonction le désir d'un sujet dans sa vie, voire dans la psychanalyse. Conclure une analyse, c'est tirer la conclusion de ce qui a été déduit, de telle sorte que cette conséquence fasse la conclusion porte sur ce que le sujet peut décemment décider de faire avec ce qu'il a appris de la cause de son désir. Appris veut dire entrevu, puis traversé. Un savoir traversé n'a pas la même consistance qu'un savoir appris de l'autre. Il modifie ce que l'on peut en tirer comme expérience pour l'action, la décision et la conclusion. Ce qui explique que certaines fins d'analyse se font sans attendre et parfois sans précaution. Si jusqu'ici nous avons parlé d'analyse au singulier, il nous faut ajouter que le problème actuel de la durée des analyses nous renvoie aussi au nombre d'analyses faites par une personne et qui de nos jours, ce n'est pas chose rare d'après ce que j'ai entendu de mes différents collègues qui sont intervenus avant moi, peut s'élever à 3 ou 4. Il y a aussi le cas particulier de reprise d'analyse. D'ailleurs, Freud, toujours dans son texte, l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, y fait référence puisqu'il écrit « Chaque analyste devrait périodiquement, par exemple tous les 5 ans, se constituer à nouveau objet de l'analyse sans avoir honte de cette démarche. » Le terme « périodiquement » fait penser à une séquence répétitive, analyse, arrêt, analyse, arrêt, de même que le sans avoir honte est certainement le rappel de l'aspect infini de l'analyse repris dans le titre de son article. En tant qu'élément de la structure, l'infini ne doit donc pas être perçu comme un défaut ou une impuissance honteuse pour un analyste, mais plutôt comme un impossible propre à l'expérience analytique, laquelle se fonde sur un tout vide. Mais alors pourquoi tous les 5 ans? Peut-être parce que Freud pensait que c'était là le temps pendant lequel une personne était capable de se maintenir comme sujet de l'inconscient avant de se réaccommoder à de nouvelles formations symptomatiques adaptatives. D'où la nécessité de reprendre l'analyse de façon intermittente. Il y a là une différence importante, me semble-t-il, avec Lacan, car l'institution que propose Freud pour accueillir les analystes, sa société, est plutôt accommodante, alors que celle proposée par Lacan, son école, est au contraire accommodante. Une société serait ainsi synthétique et une école analytique. Les membres d'une société devraient donc reprendre une analyse tous les 5 ans pour se réveiller, tandis qu'une école prolongerait, selon moi, les effets de l'analyse et maintiendrait le sujet éveillé à l'attention. Cette différence s'éclaire lorsque l'on appréhende la fin de l'analyse chez Freud comme étant d'ordre oedipien et sa société comme relevant d'un mode d'organisation paternelle. Alors que Lacan envisage, lui, de mener une analyse au-delà de l'Oedipe et oriente son école non pas autour d'une signification unitaire, soit le père ou l'idéal, mais vers son manque radical. Il s'agit bien sûr d'une proposition théorique, car au vu des crises des écoles qui ont été créées par Lacan ou après lui, on peut se poser des questions sur les effets de cette proposition. Freud lui pose dès 1897, dans une correspondance avec Fliess, l'Oedipe comme axiome des fonctions névrotiques, et 40 ans plus tard, en 1937, dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, il garde le même axe. Dans les 3 dernières pages de ce texte, on lit en effet que l'analyse la plus achevée se confrontera à la résistance chez l'homme par la protestation virile et chez la femme par l'envie de pénis. Mais les mots sur lesquels Freud termine renvoient à l'espoir que les réactions postérieures à une analyse soient au moins différentes des réactions initiales. Pour faire écho à cela, je voudrais citer maintenant Lacan dans le séminaire 24, l'insu, c'est que de l'une Vénus est l'amour. Voilà ce qu'il dit. Je cite. Le fait d'avoir franchi une psychanalyse est quelque chose qui ne saurait en aucun cas être ramené à l'état antérieur, sauf bien entendu à pratiquer une autre coupure, celle qui serait équivalente à une contre-psychanalyse. C'est bien pourquoi Freud insistait pour que les psychanalystes refassent ce qu'on appelle couramment 2 tranches, c'est-à-dire qu'il fasse une seconde fois la coupure, restaurant ainsi le nœud borroméen dans sa forme originale. Il est important de noter que lorsque Lacan, dans ce séminaire de 76, se réfère au passage de Freud de 1937, il substitue au conseil de reprise d'une analyse tous les 5 ans quelque chose de bien plus objectif et défini, à savoir faire une seconde fois la coupure, restaurant ainsi le nœud borroméen dans sa forme originale. Ainsi, après, pourrait-on dire, une première analyse qui conduirait à une supériorité du symbolique sur l'imaginaire et le réel, une seconde serait nécessaire pour articuler comme il convient les 3 registres, c'est-à-dire sans hiérarchie. Telle est, me semble-t-il, la présentation topologique du débat présent dès le début des années 70, notamment dans le séminaire L'envers de la psychanalyse et dans le texte L'étourdi. Expliquer qu'une analyse doit dépasser l'Oedipe comme référence ultime de la signification du sujet était pour Lacan une préoccupation de longue date. Maintenir l'Oedipe à l'horizon d'une analyse est corrélatif d'une conception idéaliste du traitement. Le grand tournant de la psychanalyse serait le déplacement de la fonction de l'idéal pour la fonction de la cause, et cela prend en effet beaucoup plus de temps. Si l'idéal était conservé comme moteur de l'existence, la psychanalyse serait une correction de route, un dépannage, express ou pas. Elle transformerait les erreurs en certitudes, les mauvais chemins en bons. Elle reviendrait à un peaufinage du discours du maître, une psychothérapie en somme. Or, ce que l'on vise, ce n'est pas d'en finir avec l'erreur, mais en la reconnaissant comme structurale, de permettre à chaque analysant l'expérience de s'orienter selon la cause de son désir, l'idéal universel étant irrémédiablement trouvé. La proposition institutionnelle de Lacan, l'école, était solidaire de ces avancées cliniques. En effet, seule une école de psychanalyse, à l'instar d'un groupe, ouvre la possibilité de mener une analyse au-delà, c'est-à-dire là où le symbolique relatif au père n'omme pas l'imaginaire et le réel. Car seule une école de psychanalyse peut sortir ses membres d'une léthargie institutionnelle en remettant en cause la clinique et les effets soporifiques d'une durée de la pratique trop bien installée, les obligeant quotidiennement à se remettre en question. En conclusion, je me suis rendu compte que se poser la question de la durée des analyses amène aussi à évoquer la durée d'une école de psychanalyse et donc la question de la transmission. Dans une école de psychanalyse et donc dans ses enseignements, mettre le savoir au niveau du semblant et non à la place du semblant,